7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, 50 ans, ni jeune, ni vieux, avec un grand point d'interrogation. On attend vos réponses à cette question, les voisines et les voisins. En Europe, en tout cas, il n'y a jamais eu autant de personnes de plus de 50 ans en bonne santé et actives. 22 millions rien que pour la France. Trop vieux dans le monde du travail, trop jeune pour la retraite. Quelles sont les aspirations de ces nouveaux cinquantenaires? Comment vivent-ils leur âge? Quelles inégalités aussi entre les hommes et les femmes? Michelle Obama et ses belles épaules dénudées en couverture des magazines, est-ce vraiment la réalité que vivent les femmes de plus de 50 ans? On va en parler avec Serge Guérin, sociologue spécialiste des enjeux du vieillissement et de la solidarité. Bonjour Serge Guérin.
Mes hommages.
Vous publiez les quinquados chez Kalman Levy, c'est la contraction de quinca, ceux qui ont la cinquantaine, et de adolescent. Et donc ça donne ce drôle de mot quinquado, quinquados.
Oh, quinquado, oui, quinquado, ça fait bien, hein, le lien entre ado, voilà, et quinca.
Alors, qui sont les quinquados? Bah, pas forcément tous les plus de 50 ans, hein, bien évidemment, vous allez nous le dire tout à l'heure. Également avec nous, Mylène Desclos, bonjour.
Bonjour.
Vous avez eu plusieurs vies, Mylène Desclos, vous avez été publicitaire, chef d'entreprise. Aujourd'hui, vous écrivez sur votre blog happyquinca.com et puis vous publiez aussi Les jeunes femmes de 50 ans chez Jean-Claude Lattès. C'est un livre qui a été traduit en 5 langues.
Dont l'anglais,
mais évidemment dans des pays où...
Le Japon, la Chine, la Serbie, la Pologne.
Des pays qui vieillissent inexorablement. En fin d'émission, on donnera la parole au journal Marie-Claire, notre partenaire, pour parler de la ruée vers les tests ADN pour connaître ses origines. Alors, 50 ans, ni jeune, ni vieux, réponse tout de suite dans la rue à Paris, au micro de Ndeï Alatiba.
Aujourd'hui... Mes parents qui ont 50 ans, pour moi ils sont pas vieux, ils sont même très jeunes dans leur manière d'agir, ils travaillent toujours, ils sont actifs, ils bougent, ils restent actifs, ils font du sport, pour moi ils sont pas vieux.
Bah oui, bien sûr, plus que jamais même. On revit, nous d'abord, on se réinvente une autre vie.
On se construit avant, donc se réinventer à 50 ans, je pense qu'à 50 ans, il y a une stabilisation qui va rester jusqu'à la fin de la vie.
Bien sûr, on peut se réinventer parce que je pense qu'à partir du moment où on n'est pas décédé, on peut vraiment prendre en main sa vie et faire ce dont on a envie et ce qui nous fait vibrer, quoi.
Moi, j'ai l'impression qu'on demande de plus en plus aux gens qui ont 50 ans de rester jeunes dans leur tête. Et je vois, par exemple, que tous les gens qui ont 50 ans que je rencontre, femmes ou hommes, eh bien, ils essayent au maximum de s'adapter à la culture jeune qui prend de plus en plus de place. Donc, du coup, ils essayent d'être sur les réseaux sociaux, essayent d'être de plus en plus à l'aise avec les nouvelles technologies, de maîtriser les nouveaux codes de langage.
Moi, en tant que femme à 50 ans, si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Personne ne me met des bâtons dans les roues. Après, si bien sûr je me fais « Ah là là, mais je suis une femme, et nanana, ménopause, blablabla », bah dans ce cas, c'est toute seule que je mets des bâtons dans les roues, quoi.
On peut pas dire à 50 ans « Je ne peux pas recommencer ». À 30 ans, « Je ne peux pas recommencer ». On peut recommencer, oui, on peut. À 50 ans, 60 ans, 70 ans, tant qu'on est en vie, on peut. On fait, on avance.
Comment vous vous imaginez à 50 ans, dites-moi?
Alors, une belle femme qui aura pris de l'assurance, qui aura vraiment fait les meilleurs choix, parce que beaucoup de maturité, beaucoup de personnalité.
On peut pas imaginer ce qui va arriver en fait avec les technologies qui vont avancer. 50 ans, ce sera le 30 ans d'aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre un homme de 50 ans et quelques et une femme de 50 ans et quelques?
Ouais, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'être une femme à 50 ans, puisqu'il y a une pression sur le physique beaucoup plus forte que chez les hommes. Quand un homme, ça vieillit, ça gagne en prestance, alors que quand une femme, ça vieillit, ça gagne en cellulite.
Les hommes, ils remettent toujours à demain, et peut-être, on verra. Alors que les femmes, je trouve, sont plus battantes.
Et dis-moi, toi, tu penses qu'à 50 ans, on est vieux ou on est jeune?
On est vieux, très 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 vieux.
Ah, tu nous démoralises, toi.
Très 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 vieux.
Voilà, et le voisin qui dit « tu nous démoralises, toi ». Bon ben, vous voyez, hein, finalement, dans le fond, Serge Guérin, les réponses sont assez positives.
Oui, parfaitement, on voit bien avec...
Et on entend des jeunes, on est bien d'accord.
Des très jeunes, des très très jeunes même pour le dernier, mais aussi des gens jeunes, voilà, qui ont globalement plutôt une représentation d'aujourd'hui, tout simplement. Y en a un qui dit « à 50 ans, ça fera comme à 30 ans », mais c'est déjà le cas aujourd'hui. On a gagné tous collectivement une quinzaine d'années. à la fois en termes d'espérance de vie, tout simplement parce qu'on vit plus longtemps, mais aussi parce qu'une femme de 50 ans aujourd'hui, elle ressemble plus à quelqu'un de 35 ans dans les années, je sais pas, 80, qu'à quelqu'un de 50 ans dans l'idée qu'on pouvait s'en faire. D'ailleurs, très souvent, je m'amusais à ce jeu-là. Quelqu'un qui fête autour de ses 50 ans, puis qui regarde la photo de sa mère ou de son père au même âge. Généralement, c'est « Waouh !» J'ai pas l'impression qu'il y a 50 ans, j'ai l'impression qu'elle en a 70, que c'est ma grand-mère plus que ma mère. Donc il y a vraiment quelque chose autour de ça, et tous les, bah, beaucoup des témoignages nous l'ont dit.
Vous l'avez fait ce test, Mylène Desclos, de regarder une photo de votre mère au même âge?
J'imagine ma fille qui regarde ma photo dans 30 ans.
alors elle se dira pareil, oh, c'est incroyable ma mère, qu'elle a... mais elle fait 35 ans.
On a eu des messages aussi bien sûr de nos voisins, Abdoul, 48 ans, à Nouakchott, alors lui il dit en Mauritanie, moi je sens que je commence à vieillir à 48 ans, parce que souvent dans des réunions il y a 80% de jeunes. Je ne sais pas comment ils me considèrent, mais moi, je ne me considère plus comme jeune. Normal, sur un continent où vous avez 50% de la population qui a moins de 35 ans. Message posté également sur notre serveur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. Dibi à Bamako.
Bonsoir, RFI, voisin ou voisine. En Afrique, quand on a plus d'une cinquantaine d'années, on est privé de faire beaucoup de choses. Car les enfants et les fils nous regardent. Au Mali, quand on a 50 ans, vraiment c'est la sagesse. Quand on vous voit même se cravater ou bien faire vraiment porter une belle chemise, se brailler, on va dire que, ah toi là, tu veux être jeune encore? Tu veux être jeune encore? Merci.
Et une voisine aussi en Colombie, Maria, qui ne donne pas son âge d'ailleurs.
Ni jeune, ni vieux, je ne sais pas. En France, vous n'avez pas du tout le concept, la conception qu'on a en Colombie ou en Amérique latine, de l'âge. En Colombie, avoir la cinquantaine situe plutôt vers les vieux que vers les jeunes. Après la cinquantaine, je me sens bien, j'ai un travail, je suis active. Je trouve que je produis beaucoup plus au niveau d'idées, des initiatives, etc. que quand j'avais 20 ans, forcément, parce que j'ai plus d'expérience. J'ai un parcours professionnel qui me permet de le faire. Donc je trouve que j'ai quand même gagner pas mal de choses. Et après la cinquantaine, une femme est considérée vieille dans la société colombienne. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas du tout la même chose qu'en France, où je vois plein de femmes qui ont plus de 50 ans et qui ont l'air de bien se débrouiller à cet âge-là, qui sont bien acceptées, qui sont considérées encore jeunes. Tandis que chez nous, ce n'est pas du tout ça. Voilà. L'âge dépend vraiment de la société. Et je trouve que dans la société européenne, j'ai eu l'occasion de vivre en France pendant 5 ans. Et ce que j'ai senti, c'est que les gens étaient jeunes plus longtemps par rapport à nous. Au revoir.
Ouais, l'âge dépend vraiment de la société dans laquelle on vit et de l'espérance de vie. J'ai regardé en Colombie, l'espérance de vie, c'est 74 ans contre 82 ans. Si on fait la moyenne homme-femme en France, ça fait une très grosse différence, Serge Guérin aussi.
Oui, ça fait une très grosse différence en termes d'espérance de vie, puis aussi de situation, je dirais presque physique. C'est-à-dire que, justement, un des éléments, c'est qu'on a du mal en Europe. Vous croisez quelqu'un, vous avez aujourd'hui beaucoup de difficultés à deviner son âge. Parce qu'on est moins marqué
ouais,
aussi.
Enfin, à 10 ans près quand même. Ouais.
Bon, ça dépend. Vous prenez Sophie Marceau, vous êtes incapable de dire quel âge elle a, par exemple.
Oui, elle a fait
il y a plein de gens
trucs.
Comme ça. Et par exemple, je m'amusais là aussi, en tout bien, tout honneur, à avoir mis comme ça des gens devant une sortie d'école. Alors lui, le père, le grand-père, elle, et ainsi de suite. Et souvent, bah, on se trompe. Alors parfois, ça peut même être les deux, parce que les gens ont refait leur vie. Hein. Mais globalement, c'est vrai que les pays du Sud ont souvent un regard plus dur, plus marqué et prenant plus en compte le physique que les pays du Nord.
Avec la pression des jeunes, comme nous le disait Dibi à Bamako, on ne peut pas faire n'importe quoi, nous les cinquantenaires, parce que les jeunes nous regardent, une forme de pression. Est-ce que cette pression, vous la ressentez aussi parfois, Mylène Desclos?
Alors moi, je pense qu'il ne faut pas dire son âge. On ne tient pas à être défini par son âge.
Donc
après
aujourd'hui,
50
vous
ne
donnerez pas
non,
votre
jamais.
Âge.
D'accord, non,
vous n'avez plus de 50 ans.
J'ai plus de 50 ans, oui. Oui, oui. Mais je ne dis pas. Je ne dis pas. Bon, sauf si vraiment... Alors, évidemment, c'est difficile de nos jours de cacher son âge à l'ère de Google où en deux clics, tout le monde sait tout sur tout le monde. Mais voilà, je pense que ce n'est pas nécessaire. L'âge est une abstraction.
Alors, l'âge est une abstraction. En tout cas, en France, si on regarde les chiffres, c'est assez hallucinant, Serge Guérin. C'est des chiffres que vous rappelez, c'est bien utile dans votre livre. L'espérance de vie en France en 1750, c'était quand même pas la préhistoire, 1750, hein, c'était juste avant la Révolution française, finalement. 25 ans, c'est-à-dire à 25 ans, on était mort, quoi. 46 ans en 1900. 46 ans, on était mort. Donc, Balzac, dans son roman La femme de 30 ans, décrit une femme fanée à 30 ans. Donc, en fait, une grande partie de l'humanité a vécu une révolution totale.
C'est l'une des révolutions absolument majeures de la société mondiale, c'est la longévité. Pour ça, je préfère d'ailleurs parler de longévité plutôt que de vieillissement. Parce que finalement, la longévité, ça concerne tout le monde. Les vieux, on dit toujours, c'est les autres. Alors que la longévité, un enfant de 2 jours, bah, il est d'abord 2 fois plus vieux qu'un enfant d'un jour. Et puis par ailleurs, il est concerné parce que aujourd'hui, un enfant qui naît, il a des chances importantes de vivre au-delà de 90 ans. Donc ça a complètement transformé les choses et nos politiques publiques, notre regard social n'a pas encore fait cette révolution mentale. C'est l'une des révolutions majeures de la société mondiale, c'est on vit tous plus longtemps. Dans les années qui viennent, plus d'un milliard sur le monde, hein, sur les 7 milliards de voisines et de voisins, plus d'un milliard aura plus de 65 ans.
Ouais, ça, d'accord, mais vous évoquez dans votre livre une sorte de brouillage des âges. Vous le disiez, c'est difficile aujourd'hui de connaître l'âge des gens. Enfin, quand même, on se rend bien compte. Mais comme si finalement toutes les générations pouvaient cohabiter beaucoup plus facilement qu'autrefois. Pourquoi vous dites ça ?
Ben parce que c'est... Alors là, on s'est centré sur les quinquennats, mais d'une manière globale, il y a beaucoup plus de réciprocité aujourd'hui, par exemple, entre les âges. Avant, j'apprenais auprès de quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi. Ça faisait partie de l'apprentissage. Et ça continue, évidemment, parce que finalement, un quinquennat, c'est jamais qu'un jeune qui a de l'expérience, en plus. Voilà. Mais il y a aussi le fait que, par exemple, quelqu'un de plus âgé va apprendre auprès d'un plus jeune. On pensera évidemment à tout ce qui est technologie. Et personne ne se sent gêné de dire « Ah ben, ma petite fille ou ma fille, elle m'a, en 2 minutes, elle m'a débloqué mon portable. » Alors que moi, j'aurais passé 3 heures.
Tout à fait.
Et on le dit d'ailleurs avec admiration.
Et les jeunes disent qu'eux, ils vont apprendre tout seuls avec Google, d'ailleurs. Ils apprennent pas avec les vieux.
Bah non, il y a un certain nombre de choses, ils apprennent avec les vieux. Par exemple, ils disent l'expérience. J'avais fait une étude pour une entreprise où les jeunes disaient, mais j'ai besoin que les seniors soient là pour nous aider, pour m'aider. Parce qu'il y a des choses, je ne les comprends pas. Et donc, il y a une réciprocité qu'on n'avait sans doute pas auparavant. Donc ça, c'est l'un des flous, j'irais, positifs de l'âge. Mais il y en a d'autres. Il y a simplement qu'au sein d'une même journée, sans qu'on connaisse mon âge, je peux être à un moment donné peut-être considéré comme quelqu'un d'un peu âgé. À un autre moment donné, je peux peut-être être considéré comme quelqu'un de totalement adolescent ou adolescente parce que je suis très amoureuse ou très amoureux, ainsi de suite. Dans la même journée, finalement, mon âge change. Et ça prouve bien d'ailleurs que ce n'est pas l'âge qui compte, c'est bien ma manière d'être, mon style de vie, mon regard sur les autres et le regard que posent les autres sur moi, ce qui est souvent le plus difficile.
Mylène Desclos, le fait aussi qu'on devienne mère plus tard, aujourd'hui, ça brouille aussi les relations entre les générations ?
Certainement, ça a des avantages, c'est sûr, et des inconvénients.
Parce qu'on l'âge a des femmes de 50 ans qui ont, même pas des adolescents d'ailleurs, qui ont des enfants de
alors, on vit pas
7
la
ans
même,
à la maison.
On ne vit pas ce même moment, ce même passage, si on a eu des enfants jeunes ou des enfants plus âgés. C'est vrai que la vie est complètement autre. Hein. L'âge de vos enfants vous définit quand même. Si à 50 et quelques, ce qui a été mon cas, vous n'avez tout d'un coup plus d'enfants, et voilà. Votre vie est quand même autre.
Plus légère ?
Certainement, plus libre en tout cas.
Quand il n'y a plus d'enfants à la maison. Marcel à Kisangani, en République démocratique du Congo, nous livre ce message. J'ai 60 ans, je ne le sens pas, peut-être parce que je n'ai qu'un seul âge, celui de mes enfants, 21 ans, 19 ans, 13 ans. Ce sont mes meilleurs amis, mes confidents, je partage tout avec eux, je sors avec eux et mon épouse, bref, on est heureux tous ensemble. Et c'est pourquoi je ne m'occupe pas du regard des autres, ni de l'âge qu'ils me donnent. C'est étonnant ce message qui vient de RDC.
Alors, il est génial parce qu'il résume le bouquin. Un quinquado, c'est ça, c'est quelqu'un qui finalement ne s'arrête pas à son âge et reste en relation, alors avec les enfants ou avec d'autres, des étudiants, des gens avec qui on travaille, des gens avec qui on va faire la fête ou autre. Ça n'empêche pas qu'il est bien le père et sa compagne est bien la mère. Donc, à un moment donné, ils savent aussi où ils sont. Mais ce n'est pas parce que je sais où je suis que pour autant, je n'ai pas une relation nouvelle et plus facile avec, par exemple, les enfants.
Alors, votre livre est quand même, Serge Guérin, largement à côté des réalités sociales, moi, je trouve, du pays. Hein, les gilets jaunes, les plus de 50 ans, c'est quand même pas tout à fait la même réalité. Les quinquas qui peuvent plus travailler parce qu'ils ont le dos bousillé par un emploi dans le bâtiment. L'espérance de vie qui peut varier de 10 ans entre les plus pauvres et les plus aisés. Les cinquantenaires qui sont considéré comme inemployable aussi à cause de la digitalisation des entreprises. Pourtant, vous avez travaillé aussi sur le chômage des seniors, par exemple.
Oui, alors, mais,
vous semblez l'avoir oublié.
Pas du tout. C'est, relisez le bouquin, je l'évoque et c'est
non,
justement...
Vous
je
dites que ça même, va mieux, mais...
Je parle même de génération rebond. Moi, je dirige un master, j'ai des étudiants, des candidats qui ont plus de 50 ans, par exemple. Et qu'est-ce qu'ils me disent ? Ben, j'ai pas le choix. Pour les uns, c'est j'ai envie d'avoir un métier où il y a plus de sens. Mon master forme des directeurs des établissements de santé, y compris d'ailleurs des gens qui viennent d'Afrique francophone. Et sont des personnes qui souvent soit veulent se réorienter, soit disent « moi j'ai envie d'avoir un métier avec plus de sens ». Et donc ces personnes-là, c'est autour de la cinquantaine qu'elles se disent « en fait, j'ai un peu coché toutes les cases. J'ai fait les enfants, j'ai fait le boulot, ainsi de suite. Aujourd'hui, je voudrais à la fois penser plus à moi, mais aussi donner plus de sens à ma vie. Oui. » Ça, c'est un des éléments. Il y a un autre élément.
Il y a un moment donné, quand on a encore 15 ans à cotiser pour la retraite, il faut travailler, il faut des revenus, donc donner plus de sens à sa vie. Quand les entreprises ne lisent même pas des CV de personnes de plus de 50 ans.
Oui, bien sûr.
C'est la réalité.
Oui, bien sûr, alors, c'est une réalité.
Vous dites, c'est vrai que le chômage des seniors avait augmenté de 50% depuis les années 2000 et que là, ça va un peu mieux, ou plutôt un peu moins mal.
Un peu moins mal, absolument, oui, bien sûr. Mais du coup, dans ces catégories-là, alors évidemment, le quinquado est plutôt quelqu'un qui est diplômé, par exemple. Et une des grandes différences, c'est bien sûr qu'il y a la question de l'âge, parce qu'il y a un regard social sur l'âge, en particulier dans l'entreprise, qui est souvent très très négatif. On est senior dès 45 ans dans une entreprise française, par exemple. Ce qui est quand même délirant par rapport à ce qui nous reste d'espérance de vie. Donc là, il y a quelque chose de complètement idiot, quoi. Mais l'autre différence, ou l'autre inégalité, elle est en termes de diplôme. Plus la personne est diplômée, d'abord, plus elle continue de se former, et plus, du coup, elle a des possibilités de rebondir. Et bien entendu, les gens qui sont moins bien formés sont ceux, d'ailleurs, quel que soit leur âge, qui sont plus en difficulté. Et ça, il faut évidemment le prendre en compte.
Mylène Desclos, justement, vous avez eu 50 ans dans le sillage de la crise financière de 2008, grosso modo. Vous avez vendu votre entreprise de communication à ce moment-là.
Je me suis rendu compte qu'en fait, il était très difficile de vieillir dans certains secteurs. La pub, la banque, sont des secteurs assez cruels. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de sortir de ce métier lorsque je me suis rendu compte que les donneurs d'ordre, par exemple, étaient des gens qui auraient pu être mes filles ou mes fils. Donc j'ai préféré vendre à un moment en plus où la digitalisation de la pub par rapport à mon activité prenait le pas. Il fallait complètement se réinventer. J'ai préféré laisser ça à des plus jeunes.
Et vous, comment vous vous êtes réinventée professionnellement?
Alors, dans un premier temps, j'ai aidé les autres. C'est vrai que, comme le dit Serge Guérin, j'ai eu envie de donner du sens à ma vie. J'avais gardé des locaux et j'ai accueilli dans mes bureaux des femmes qui avaient été laissées un peu sur le bas-côté parce que 50 ans et licenciement, etc. Et donc, j'ai un peu aidé des femmes pendant quelques temps. Après, j'ai voyagé. Après, j'ai réfléchi à des tas d'autres options. Et c'est vrai qu'il m'a été difficile de retrouver un travail aussi prenant que celui que j'avais fondé quelques années auparavant.
Aujourd'hui, vous vous consacrez à l'écriture.
Aujourd'hui, j'écris, j'ai mon blog à Piquinca. Je m'occupe d'un magazine pour un groupe hôtelier de luxe à l'île Maurice qui s'appelle le Beachcomber, et j'écris mon deuxième livre.
Est-ce que vous êtes tatouée, Mylène Desclos?
Non, je déteste ça. Non, j'en suis malade, que ma fille le soit.
Ah bon?
En revanche, mais non, je ne...
Parce que le tatouage, alors il paraît que c'est un truc très très en vogue très chez quinquado. Les quinquados, Serge Guérin.
Oui, alors, il ne s'agit pas de dire pour ou contre, et pareil, je ne suis pas du tout tatouée. Quand j'ai de la place, par exemple, sur le crâne, mais voilà, ça ne m'est pas venu à l'idée. Mais c'est vrai que c'est intéressant comme signal, comme symbole, hein, aujourd'hui. D'ailleurs, moi je disais pareil à mes filles, celles qui seront originales, c'est celles qui ne seront pas tatouées. Exactement. D'ailleurs, c'était un argument qui a très bien fonctionné avec elles. Non, oui, c'est vrai, parce qu'au bout d'un moment, évidemment, tout le monde le fait. Donc,
mais alors, pourquoi les quinquas se tatouent à 50 ans, hein?
Alors, il y a trois éléments qui sont intéressants. Le premier, c'est que finalement, le faire à 20 ans, vous prenez un risque énorme quand la peau évolue. Vous le prenez moins à 50 ans. Le deuxième, c'est de se dire voilà, ça me fait plaisir et maintenant que je me sens un peu libre, je vais le faire. Et troisièmement, et certainement lié à l'effet de mode. Mais c'est vrai que de certaine manière, on peut dire le risque est moindre d'une certaine manière de le faire à 50 ans parce qu'on sait comment sa peau a évolué et comment elle va évoluer. Alors, quelqu'un de 20 ans prend en plus un risque énorme par rapport à cela.
Alors 50 ans et plus, ni jeune ni vieux, c'est à vous de nous répondre, les voisins et les voisines. Appelez-nous, dites-nous comment vous vous sentez perçu dans votre pays, socialement, mais aussi comment vous vous sentez dans votre peau. 33 1 84 22 71 71, on a parlé de l'emploi, mais bien sûr aussi on va parler de la vie sentimentale. Ça sera juste après Stromae.
Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépense. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Et dit famine dit tiers monde. Et qui dit fatigue dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Et c'est la zig ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante.
Alors on danse, Stromae, Serge Guérin, il paraît que... Il y a des chanteurs qu'on peut écouter plus facilement en faisant son footing avec un casque sur les oreilles et aller au même concert que ses propres enfants. Il en fait partie pour vous ?
Oui, pour moi d'ailleurs, j'en parle dans le bouquin, Stromae, ça parle à tout le monde. Il y a quelque chose, il est jeune, mais je dirais qu'à la limite, on s'en fiche complètement. La voix est formidable, fabuleuse. Et vraiment, j'ai discuté mais avec des gens, même plus que des quinquados, qui me disent « mais oui, c'est sympa et tout voilà. ». Après, on a d'autres, je sais pas moi, le groupe Indochine par exemple, Nicolas Sirkis, il va avoir 60 ans. Et dans son public, mais il y a des gens de 20 ans et des gens de 60. Téléphone, Jean-Louis Aubert doit avoir plus que 60 ans. Il y a pareil, il y a quelque chose d'intergénérationnel autour de tout ça. C'est sans doute aussi peut-être la force de la musique, hein, il y a aussi quelque chose autour de cela.
Vous écoutez les mêmes choses que vos filles, Mylène Desclos,
hein. Je suis étonnée de voir à quel point nos enfants connaissent nos morceaux et nos
tout
chanteurs.
À fait. Et ils les aiment.
Oui, ils les aiment.
Alors, on va bien sûr vous donner la parole, 33 1 84 22 71 71. Mais juste avant, je voudrais vous faire écouter le témoignage de Sarah. Elle vient de fêter ses 58 ans, elle est mère de 3 enfants divorcés. Et elle raconte son histoire d'amour avec Pierre, avec qui elle vit depuis 7 ans. Elle s'est livrée au micro d'Alice Milo.
Je me souviens très bien de mes 50 ans. J'étais en plein trajet, je dirais, entre une vie d'avant où j'avais été mariée, j'avais eu mes enfants, etc. Et là, j'arrivais à un moment clé. Ça faisait 5 ans que j'étais séparée. J'ai atteint ces 50 ans-là et je me suis réveillée en me disant « C'est ta nouvelle vie, c'est la moitié de ta vie qui te reste. T'as plein de choses à vivre. » Et en même temps, le doute, l'inquiétude de savoir est-ce que j'aurai de nouveau l'amour, un compagnon. J'étais prise entre deux, sachant que je n'ai pas voulu fêter mes 50 ans comme on le fête, on imagine une grande fête de cinquantenaire. J'ai voulu les fêter pour mes 51 ans. C'était la première année de ma nouvelle vie. Alors que les 50 ans, c'était un démarrage, je venais de naître. Je suis restée quand même mariée 25 ans, donc ça a vraiment décliné. Il y a eu beaucoup, beaucoup de tensions. Les enfants souffraient de ces tensions. Moi, je ne savais pas quelle était la meilleure solution, partir ou rester. Et puis, il y a eu donc le divorce, la séparation. J'avais 45 ans. Et ensuite, ça a été un début de renaissance. J'ai eu une histoire d'amour, je dirais, fulgurante, très courte, avec un homme beaucoup plus âgé que moi. Ça a été un moment fantastique parce que c'est un homme qui m'a révélé la femme que j'étais. Il m'a vraiment fait comprendre qu'en fait j'étais une femme qui aimait l'amour, qui aimait le sexe, qui aimait la vie charnelle et que j'avais jusque-là vécu dans une chrysalide, quoi. Il a été très important et ça a duré que 15 jours. Mais je me disais, mais ma cocotte, c'est maintenant, c'est ta dernière ligne droite, donc vas-y, quoi, va, fais tout ce que t'as envie de faire pour connaître, quoi, pour savoir ce que t'aimes vraiment et ce que tu veux découvrir après avec un homme qui sera vraiment l'homme avec qui t'espères cheminer longtemps. Donc j'ai pris un papier, un crayon et j'ai listé tout ce que je voulais que soit cet homme. J'ai écrit mon homme idéal. Grand, voilà, bel homme, un regard bien franc, un beau sourire. Lui, je le voulais aussi avec des enfants parce que je trouve que c'est important pour se comprendre d'avoir eu des enfants quand on en a d'un côté et d'en avoir de l'autre. Drôle, qui me fasse beaucoup rire, qui soit impertinent, insolent.
Et ça existe ?
Eh ben, je l'ai rencontré. lorsque j'avais 51 passé, donc ça a pris un peu plus d'un an. On s'était connus à travers un café, un restaurant, mais lui il le tenait, moi je venais y travailler. Un jour j'étais vraiment désespérée, je savais pas comment j'allais m'en sortir financièrement. Il m'a vu, il a été bouleversé, il s'est dit mais qu'est-ce qui arrive à cette femme pour qu'elle ait ce visage? On a parlé 10 minutes, je me suis ressaisie et tout, je suis partie. Et une semaine après, il m'appelait, il m'invitait au théâtre. Ce moment de théâtre, où on était l'un à côté de l'autre, je n'avais qu'une envie, c'était de mettre ma main sur sa cuisse. Et je me disais, ben non, cet homme, je ne sais même pas si on va avoir une histoire ensemble, je ne peux pas, quoi. Et lui m'a avoué après qu'il avait vécu dans la même tension toute la pièce de théâtre, en disant, j'ai envie de prendre sa main, j'ai envie de la toucher, j'ai envie de... Donc on a vécu la pièce de théâtre, qu'on a très mal suivie, dans une tension mutuelle dingue. J'étais comme une gamine, quoi. Je rougissais, j'avais le cœur qui battait autant que... Voilà, Et ensuite, ben, je rentre chez lui, je rentre pas chez lui. C'est des tas de questions de gamine, quoi, qu'on se repose à chaque fois. Et il y a quand même cette intensité passionnée et folle des débuts qui est de la même quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans, quoi. Ça ne bouge pas, je suis sûre que c'est la même à 80 ans. Et puis, en même temps, on a plus envie de perdre de temps. Il y a cette envie d'aller droit au but. Et ça a été drôle aussi au niveau physique de se rendre compte que oui, on est beaucoup plus mature, on est déconditionné, parce qu'il monte prendre une douche. Bon, en plus, j'avais mis une robe que j'aimais pas du tout au bout du compte. J'avais mis 2 heures à choisir ma robe et je l'aimais pas. Je me sentais idiote dans cette robe. J'aurais dû me mettre beaucoup plus cool en jean et avec un t-shirt. Je me dis, ah non, ça va pas du tout. Donc, je suis montée, il était sous la douche, je suis montée à l'étage, je me suis déshabillée en moins de 2, je me suis mis à poil complètement. Planquée contre, en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? Il me trouve nue, il est sidéré, mais charmé. Je suis avec un amant, un amoureux, qui aime profondément la femme, qui aime profondément le corps de la femme, et qui aime profondément mon corps. Donc forcément, ça rassure. Je ne toucherai jamais à aucune partie de mon corps pour ne pas vieillir, parce que je trouve très beau, le visage qui vieillit naturellement d'une femme. Une des clés, peut-être, qui m'a aidée avec Pierre, c'est que la première chose qu'on s'est dite, c'est que quelle qu'ait été sa vie avec son ex-femme, quelle qu'ait été ma vie avec mon ex-mari, on n'en parlerait pas. Mais on partait sur des bases neuves, on créait notre vie elle était devant nous, pas derrière nous. Ça nous a beaucoup aidé de ne pas parler du passé. Ça n'a pas empêché les crises, ça n'a pas empêché les moments difficiles, mais je retombais beaucoup plus vite sur mes pattes, je voyais tout de suite mes erreurs, j'étais beaucoup plus capable de dire les choses. Je pense que si j'avais divorcé à 30 ans, ou à 40 ans même, je ne suis pas convaincue que ça aurait pu remarcher aussi vite. C'est-à-dire que je crois que la cinquantaine, c'est vraiment un âge charnière. On dit « ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ». Moi, tout ce que j'ai traversé de difficile m'a rendue plus forte. Et donc, c'est un âge charnière où on peut utiliser cette force pour soi et non contre soi. J'ai eu peur de mourir jusqu'à ma rencontre avec Pierre parce que je pense qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas encore vécu. Et depuis que je suis avec lui et que mes enfants, je les vois s'épanouir, j'ai la sensation que si je devais mourir demain, je partirais avec déjà énormément de choses accomplies. Donc, tout va bien.
50 ans, ni jeune ni vieux, voilà, c'était le témoignage de cette jeune quinca. Vous vous reconnaissez là-dedans, Mylène Desclos ?
Alors dans mon livre, Les jeunes femmes de 50 ans, je parle beaucoup d'amour, c'est vrai. Et j'y décris l'homme idéal, parce que je pense qu'on ne rencontre pas la même personne à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, on a, voilà, à 50 ans, peut-être que c'est un homme différent dont on a besoin. Et voilà, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un sur le tard, comme on dit. Mais avant, j'ai écrit ce livre et j'ai un peu analysé, il est comment l'homme idéal. Voilà, donc cette question d'amour est très très importante à cette période de la vie où justement on se sent un petit peu fragilisé. Et où le choix est quand même un peu restreint. Beaucoup d'hommes mariés, voilà. Donc,
femme fragilisée après 50 ans, Serge Guérin, ça reste une réalité. Vous décrivez pas, il y a beaucoup de témoignages dans votre livre, il n'y a pas d'hommes qui se font faire de la chirurgie esthétique. C'est quand même assez, beaucoup plus rare, par exemple.
Oui, même si, je pense qu'il commence à y en avoir, mais ils sont assez discrets. parce qu'à la limite, c'est plus facile à assumer. Alors là, pour l'inverse, c'est plutôt plus facile à assumer ou plus considéré comme, entre guillemets, normal pour une femme que pour un homme. Je dirais que les gens font ce qu'ils ont envie. Si ça, évidemment, ça peut devenir pathétique quand les gens font n'importe quoi et ils sont plus du tout la personne qu'ils étaient. Après, si ça fait du bien à tel ou tel, moi j'y réfléchis par exemple parce que j'allais faire des implants. Bah non, parce que je me vis très bien sans cheveux. Mais il y a des gens qui sont peut-être plus en difficulté avec ça et c'est pas très grave. Mais en revanche, je trouvais à la fois ce qu'on vient d'entendre et puis ce témoignage, c'est aussi ça, c'est je m'accorde aussi le droit de choisir, de décider et de voir ce qui est bon pour moi. La notion de prince charmant, alors après il y a beaucoup de femmes autour, ou d'hommes qui disent ça va, je sais aussi que ça n'existe pas, que ça n'existe pas vraiment et je fais aussi, enfin je relativise. Mais c'est pas grave, au contraire, c'est aussi de se dire de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui va me faire du bien. Et finalement après on va faire son portrait robot, mais finalement ça a assez peu d'importance et très souvent les gens d'ailleurs, entre le portrait robot et la personne réellement avec qui il se construit quelque chose, elle est extrêmement différente, mais l'important c'est d'être lucide et sans doute de peut-être se dire voilà, je vais construire quelque chose avec des moments plus difficiles que d'autres, on est aussi plus mature par rapport à cela. Ouais.
Alors un message d'Anne-Laure, 53 ans à Paris, qui poste ceci. J'ai su que je vieillissais quand les ouvriers des chantiers devant lesquels je passais ont arrêté de me siffler. On accueille une auditrice, André-Dominique, 50 ans, à Abidjan. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes d'accord avec le message d'Anne-Laure que je viens de lire? Vous l'avez entendu? Vous étiez déjà en ligne avec nous?
Oui, j'ai entendu. Elle a dit qu'elle a su qu'elle avait 50 ans, qu'elle vieillissait parce que les ouvriers de l'usine dans laquelle elle travaillait avaient cessé de siffler.
Et pour vous, André-Dominique?
Ben, pour moi, c'est tout à fait le contraire. Désolée pour Anne-Laure.
C'est-à-dire?
Et pour moi, c'est tout à fait le contraire. En effet, d'abord, j'avais un peu peur d'avoir mes 50 ans. Je me suis coupé les cheveux. Je ne voulais surtout pas faire célébrer mon anniversaire. Et puis, quand je les ai eus, ça a été vraiment le virage à 180 degrés. Donc, j'ai décidé d'être plus heureuse qu'à 30 ans. Parce que vous savez que le bonheur, c'est une courbe. Et c'est une courbe en U, et à 50 ans, on est vraiment du bon côté de la courbe.
Donc, mais quand vous dites j'ai tout changé à 180 degrés, ça veut dire quoi? Vous avez tout balancé?
Non, du tout. Du tout, au contraire, j'ai décidé d'être heureuse avec ce que m'offrait la vie. Les enfants, ils sont grands, ils sont partis, ils sont étudiants.
Oui.
Donc, avec mon compagnon, nous avons une association sportive pour dans ma vie, dont je suis la secrétaire générale, qui regroupe plus de 1000 personnes en Côte d'Ivoire. Et je veux dire que grâce à cette activité-là, d'ailleurs, j'invite ceux qui m'écoutent, les auditeurs, à nous rejoindre. Trois fois par semaine, on se regroupe et c'est vraiment l'hystérie.
Ouais. Et toute génération?
Toute génération confondue.
D'accord.
Hommes, femmes, enfants, on se regroupe et on a des parcours, on organise des voyages. Et je veux dire que c'est vraiment une nouvelle vie, un nouveau départ.
Ouais. Une nouvelle vie. Merci André-Dominique pour nous avoir décrit cette nouvelle vie. Gilles nous appelle également au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Gilles, vous êtes à Douala au Cameroun.
Bonjour.
Alors, vous n'avez pas vraiment 50 ans, Gilles, hein. Désolé de vous le dire, mais 46 ans.
Non, pas du tout. Ouais. 46 ans. Mais bon, j'y approche. Hein.
Vous y pensez déjà, ça trotte dans votre tête.
Ben ouais.
C'est-à-dire
je me dis, bon, en tout cas, si on a une certaine hygiène de vie, comme moi, bon, je fais beaucoup de sport, je pense qu'à 50 ans, je serai encore solide.
Oui.
Et puis, on a des exemples dans le cinéma et tout, des acteurs qui ont passé la cinquantaine. Qui pète la baraque, qui casse la baraque. Donc, on se dit à 50 ans, on a encore nos chances, quoi. Qu'on a beaucoup de choses encore devant nous qui s'offrent. Voilà.
Et sentimentalement, alors, Gilles?
Sentimentalement, on est plus apaisé, quoi. On est plus apaisé, on a des relations, enfin, on fait moins le con. C'est ça.
Ah, c'est bien résumé.
On respecte plus les femmes.
On respecte plus les femmes, vous avez dit, ouais.
Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
C'est ce qu'on se permettait à 30 ans, on se permet plus tard, quoi.
Oh là, vous allez avoir des filles qui vont demander votre numéro de téléphone, là. Attention, Gilles.
Mais je veux dire aussi, pour les femmes de plus de 50 ans, pour moi, sont les plus belles.
Vous dites elles ça, Gilles.
Oui, je dis que les femmes qui m'ont vraiment marqué physiquement, c'est les femmes qui avaient plus de 50 ans. Quand elles sont belles, elles sont vraiment très belles. Il n'y a pas d'artifice, elles sont apaisées, elles font moins de... elles sont plus naturelles et elles rayonnent, surtout celles qui sont heureuses dans leur vie familiale, dans leur vie de couple, dans leur vie professionnelle, elles sont rayonnantes. Et puis, bon, avec leur expérience au niveau intellectuel, il y a du répondant, quoi. Il n'y a pas photo avec les gamines.
Serge Guérin,
c'est génial ce qu'il dit. Il a raison. Enfin, alors, c'est aussi parce que la vie a changé. Mais c'est vrai que les femmes de plus de 50 ans sont absolument magnifiques. Elles sont magnifiques physiquement, mais elles sont magnifiques parce que peut-être que leur histoire les rend aussi plus magnifiques, plus intéressantes, plus riches. Et peut-être que nous-mêmes sommes aussi, peut-être avec l'âge, les hommes peut-être plus intéressants qu'auparavant. Et donc, entre gens peut-être plus intéressants, et ben les rencontres, en fin de compte, sont plus fortes.
Mais on dit quand même beaucoup qu'il y a encore une vraie inégalité entre les hommes et les femmes, même si les hommes parlent moins de leur inquiétude de vieillir, hein, notamment sexuellement, par exemple. C'est quelque chose qui est moins, peut-être moins déballé que le vieillissement des femmes, qui est plus visible, peut-être aussi socialement.
C'est ça, c'est qu'en fin de compte, je pense qu'il y a une aussi forte inquiétude des hommes, sauf qu'elle se voit moins, parce que déjà physiquement, ça se voit un peu moins, parce que socialement, c'était mieux porté pour un homme de prendre de l'âge, mais derrière, il y a des inquiétudes, par exemple des inquiétudes autour de la performance sexuelle, qui sont très très fortes. Il y a, d'ailleurs, j'avais fait un chapitre sur les quinquados sont-ils de bon coup, quoi, parce que c'est vraiment une question. Alors, il y a les hommes qui se disent, maintenant je vais aller avec une petite jeune, sans se dire, mais est-ce que la petite jeune va y trouver son compte ? Et parfois, voilà. Et il y a aussi une inquiétude de se dire, est-ce que je serai un bon amant ? Il y a quelque chose autour de ça. Et il y a aussi une compréhension d'autres, de femmes comme d'hommes, de dire, mais beaucoup de femmes m'ont dit, mais la question de la performance, elle est réglée. C'est pas ça ce que j'attends d'un homme. Il y a autre chose. Et si cet homme-là n'est pas capable de sortir de cette culture de la performance, d'une certaine manière, il n'a pas compris grand-chose.
Vous êtes d'accord avec ça, Mireille Desclos, sur Mylène, pardon,
sur la performance sexuelle des hommes de 50 ans ?
Sur une inquiétude qui serait plus masquée peut-être chez les hommes ?
Je ne sais pas, je n'en connais pas assez peut-être. Mais...
En tout cas, merci à vous Gilles de nous avoir téléphoné. On va maintenant accueillir Catherine Durand du magazine féminin Marie-Claire. Vous êtes en ligne avec nous en direct. Bonjour Catherine Durand.
Bonjour.
Je ne sais pas si vous avez entendu Gilles qui nous appelait de Douala au Cameroun et qui disait moi je ne suis pas attirée par des gamines mais plutôt par des femmes de la cinquantaine. C'est votre journal qui a publié il y a quelques semaines l'interview de l'écrivain Yann Moix, écrivain français 51 ans, qui disait qu'il ne pouvait pas aimer une femme de 50 ans. Ça a été une indignation sur les réseaux sociaux. Votre journal s'affiche féministe. Est-ce que vous l'avez un peu livré en pâture aux réseaux sociaux, Yann Moix, parce que ça a été quand même une déferlante?
C'est vrai que c'était une déferlante, mais on ne s'attendait pas du tout à ce buzz. Peut-être il y a 2 ans, on avait fait un grand sujet, une enquête sur ces hommes qui préfèrent les femmes plus jeunes. Aucune réaction. Alors, ce n'était pas des gens connus. Non, à Marie-Claire, on a notre tradition, c'est d'interviewer les gens et d'aller dans l'intime. Et on n'a pas à dire à nos lectrices qu'elles doivent penser. On a livré le témoignage de Yann Moix, qui, hélas, dit quand même, il est sincère, il dit ce que pensent beaucoup d'hommes, mais qui ne vous le diront peut-être pas franchement. Nous, on le vit à Marie-Claire. On sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent les femmes plus jeunes.
Ouais. Mylène Desclos, vous avez suivi cette affaire sur les réseaux sociaux?
Oui, je remercie Yann Moix parce qu'il a contribué à réactiver les ventes de mon livre. Donc ça, c'est le bon côté. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une dimension un petit peu offensante parce que qu'il aime les femmes plus jeunes, à la limite, c'est son problème. Très bien, et c'est pas le seul en plus. Mais qu'il dise qu'il ne peut pas aller avec une femme de 50 ans, c'est là où ça va pas. C'est son droit, voilà, le désir, c'est son désir de l'exprimer. Et surtout, c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi le magazine Marie-Claire, qui est censé soutenir les femmes, donne le micro avec cette partie-là. Voilà.
Vous vous êtes demandé...
Mais non, mais ouais. Excusez-moi, mais Catherine Durand. On tend le micro à tout le monde.
Oui.
Après, on ne peut pas censurer Yann Moix. Moi, ce qui m'a surprise, en revanche, c'est que personne n'ait réagi sur le fait qu'il n'aime que les femmes asiatiques. Mais moi, je pense que c'est son problème.
Absolument.
C'est resté un petit garçon narcissique. Il le dit lui-même, hein. Il dit c'est une malédiction pour moi. C'est son problème. On n'est pas là non plus pour le juger. Nous, à Marie-Claire, on ne juge personne. Mais je trouve que ce débat, justement, était intéressant parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'agisme, c'est une autre forme de discrimination contre les femmes et elle est devenue insupportable. Ça, c'est plutôt bon signe.
C'est-à-dire qu'il y a eu MeToo, tout a changé et rien n'a changé finalement.
Bah, c'est pas si facile de changer les mentalités. Et puis le désir, comme disait votre invité, c'est complexe. Je veux dire, on n'est pas là pour juger le désir de Yann Moix. En revanche, je trouve que c'est... je trouve que cette polémique a été bénéfique. Parce que on a dit, oui, effectivement, les femmes sont de plus de 50 ans sont souvent invisibles. D'ailleurs, il dit pas « elles me dégoûtent », il dit « pour moi, elles sont invisibles ». Et cette invisibilité des femmes de plus de 50 ans, on la retrouve ailleurs, on la retrouve au cinéma. Hollywood, ils ont beau lancer « on va boycotter », c'est ça, ça ne bouge pas. Il y a encore très peu de femmes de plus de 50 ans qui ont des premiers rôles au cinéma en France et encore plus aux États-Unis.
Alors, il y a quand même Julia Roberts, 52 ans, qui est en couverture de Marie-Claire du mois de mai, d'ailleurs, hein, et qui a des premiers rôles, mais d'ailleurs pas des premiers rôles de grande séductrice. Hein, de son dernier film, elle incarne une mère d'un jeune qui se drogue, et c'est un visage de la douleur, d'ailleurs, et non pas de la séduction.
Oui, et d'ailleurs, ces grandes actrices hollywoodiennes, moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'elles, elles ne trichent pas. Enfin, elles font pas des rôles de 35 ans, enfin, en disant « j'en ai 50, mais je joue des rôles de femmes de 35 ans ». Elles jouent effectivement des femmes plus âgées, enfin, leur âge, et elles ne trichent pas, et elles ont des rôles puissants. Mais c'est quand même assez minoritaire.
Même si leur fond de commerce reste quand même leur physique, il faut le reconnaître pour ces femmes-là, plus que pour des hommes.
Oui, mais
Julia Roberts en couverture de Marie-Claire, elle est absolument magnifique. Et d'ailleurs, vous titrez « Le sourire le plus puissant ».
Oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais je vais vous dire une chose, les lectrices, elles ont envie d'avoir en couverture de Marie-Claire des femmes belles, quel que soit leur âge. Elles ont envie de s'identifier. Et c'est vrai qu'on choisit des jolies femmes en couverture, mais qui ont de la personnalité.
Serge Guérin, alors qu'est-ce que ça vous a évoqué, cette polémique de l'écrivain Yann Moix? Qui a dit les femmes de 50 ans sont transparentes.
Oui, parce que moi j'ai trouvé ça très bien que Marie-Claire le publie, parce qu'après tout c'est un vrai discours. Au moins il y a le moi qui l'assume, alors qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont pas le dire. Mais les quinquados, justement, que ce soit des femmes ou des hommes, c'est des personnes qui assument aussi. Votre journaliste là vient de dire la notion de puissance, c'est-à-dire que à un moment donné, une femme ou un homme n'est pas que résumable, un, à son physique, et deux, au fait qu'il soit séduisant ou pas. Ou par ailleurs, j'ose espérer qu'on est capable de séduire avec autre chose. Et c'est aussi ça qui fait toute la richesse humaine. Et donc, il y a des gens qui sont limités sur cette question-là, et c'est leur problème. Et, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la question des réactions, c'est-à-dire des femmes de 50 ans dont on dit qu'elles sont invisibles, et qui ont pris sacrément de la visibilité, en disant globalement, il y a de moi qui sont en merde. Et c'est très bien. Et c'est très bien que ça réagisse. Et c'est très bien qu'il y ait un débat autour d'un magazine qui a toujours porté la parole des femmes, pour qu'en effet, il y a plusieurs paroles des femmes. Les femmes ne se réduisent pas à être juste une femme. L'identité, elle est multiple. C'est d'ailleurs le grand problème de notre société d'aujourd'hui. C'est qu'on voudrait être réduite à un seul élément, soit notre physique, notre sexe, et ainsi de suite. On est plusieurs choses à la fois. Et donc, je peux être une femme de plus de 50 ans, ça me fait déjà deux éléments, mais j'en ai plein d'autres. Est-ce que je suis impliquée dans la société? Est-ce que j'ai telle ou telle petite idée? Et ça donnait cette richesse. Cela. Et Yann Moix, d'un certain côté, lui réduisait les choses, et les réponses ont permis d'élargir le spectre.
Et il y a eu une vraie solidarité d'ailleurs de femmes plus jeunes, de femmes de 35, 40 ans, parce que
elles savent qu'elles vont vieillir demain.
Exactement. Ça, s'il y a bien quelque chose de commun, c'est bien cela. Catherine Durand.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est ce que je vous disais, ce buzz, il est bénéfique. Et c'est vrai que cet agisme, on ne le supporte plus. Enfin, les femmes disent, mais attendez, on n'est pas qu'un corps, et à plus de 50 ans, on a aussi d'autres choses à apporter. Ouais. Mais c'est dommage pour lui. C'est, je veux dire, tant pis pour ces hommes qui nous trouvent invisibles.
En même temps, on peut lutter contre les agressions sexuelles, comme ça a été le cas avec MeToo, bien évidemment, réaffirmer le droit des femmes, le respect du droit des femmes. C'est difficile de revendiquer la lutte contre l'agisme, très honnêtement. Comme le disait Mylène Desclos, on peut pas lutter contre le désir des hommes qui est ce qu'il est.
Ben voilà. Et on ne peut pas lutter, mais je trouve cette réaction très saine, parce que, comme disait votre invité, les femmes disent « on est aussi autre chose, on n'est pas que ça ».
Oui, alors, et puis il faut rappeler qu'il n'y a pas que des Yann Moix, il y a aussi plein d'hommes qui sont en désir de femmes qui ont plus de 50 ans.
Voilà, ben comme nous le disait cet auditeur, Gilles, tout à l'heure, qui nous appelait de Douala. Alors, ce mois-ci, dans le numéro de mai, donc il y a Julia Roberts qui est magnifique, qui a 52 ans en couverture, mais il y a surtout tout un article que vous avez signé, Catherine Durand, sur la folie des tests ADN. En avril 2018, il y avait 15 millions de personnes qui avaient acheté un kit de tests ADN pour connaître ses origines. Donc, envoyer son crachat à un laboratoire aux USA pour une cinquantaine d'euros. Tout le monde veut le faire aujourd'hui. C'est un business qui est estimé à 25 milliards de dollars d'ici 2021. Est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez réexpliquer vraiment en une minute, Catherine, en quoi ça consiste ? Parce que vous l'avez fait, une partie de la rédaction l'a fait, ce
oui,
test.
Oui, en fait, oui, il y a 16 personnes de la rédaction qui l'ont fait. Il y a plusieurs entreprises, surtout dans la Silicon Valley, qui ont lancé ces tests. Ces tests des origines, attention, on ne fait pas un test avec des gènes, avec des maladies, mais des maladies héréditaires. Hein. Donc c'est les origines. Alors, où c'est la salive, on donne un petit truc, on envoie au laboratoire, et un mois plus tard, on a les résultats, et on voit le pourcentage de ces origines. J'ai n'importe quoi, 50% française, on a des origines italiennes, on a quelqu'un au journal qui a un grand-père martiniquais, donc elle a des origines africaines, donc c'est assez fascinant, et on se rend compte qu'en fait, on est tous sur la même planète et on a des origines multiples. C'est très rare, très très rare qu'il n'y ait qu'une origine, je crois que c'est 5% de la population qui aurait une origine unique. Mmh. On est un vaste mélange parce que la France est quand même un pays de migration.
Ouais, bienvenue.
Il y a eu des vagues successives de migration qui font qu'on est très mélangé.
Bienvenue chez 7 milliards de voisins. 85% des jeunes de moins de 25 ans veulent faire leur test ADN. Ça peut sembler quand même assez surprenant.
Alors, ce que me répondaient des spécialistes, c'est d'abord, c'est la génération de la tech. Tout ça, je viens de la Silicon Valley, et de recevoir ses résultats sur son iPhone, il y a un côté un peu à la fois magique et technique, donc ce qui plaît aux jeunes. Et je pense aussi que c'est bon, et on se sent évidemment citoyen de la planète, et l'idée aussi de connaître ses origines, ça crée tout un imaginaire. Quand vous voyez, mais comment ça se fait que j'ai des origines des pays baltes? Donc on imagine un ancêtre qui serait apparu, parce qu'en plus on voit à peu près à quelle période, c'était au 18e siècle, au 19e siècle. Donc ça crée tout un récit imaginaire qui est assez excitant.
Ouais. Il y a quand même le risque aussi de découvrir un mauvais secret de famille.
Oui, alors c'est pour ça que ces tests sont interdits en France, hein, il faut le savoir. Ce qui fait très peur, c'est effectivement découvrir qu'on est issu d'un adultère. Ce qui est assez courant et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une association qui s'appelle PM Anonyme. En quelques mois, ils ont retrouvé une dizaine de donneurs de sperme anonyme. Donc si 2% de la population mondiale d'un pays faisait ce test, c'est la fin de l'anonymat.
On a déjà pour les donneurs de sperme, pour la procréation médicalement assistée.
Pour une mère qui a accouché sous X, c'est vrai que ça pose question. C'est la fin de l'anonymat, enfin pas tout de suite, mais en quelques temps, si on fait... Beaucoup de gens font ce test, on va pouvoir remonter à toutes les origines.
Est-ce que vous comprenez que les lois de la bioéthique interdisent en France les tests ADN? D'ailleurs, il y a même une amende qui est prévue, vous le précisez dans votre article, par le code pénal. Hein.
Oui, 3 700 euros. Mais tous les débats qui actuellement autour de la bioéthique, on pense quand même ne plus interdire les tests dits récréatifs. Donc c'est les tests que sur les origines. C'est une demande notamment de tous les généalogistes et puis une demande de la population. Enfin, je veux dire, il y a une envie, il y a un désir de le faire. Après, personne n'est obligé de le faire. Il faut savoir que quand on fait ce test, on expose aussi l'ADN de sa famille, de ses frères et sœurs. Donc il y a une vraie question éthique.
Ouais. Merci à vous, en tout cas Catherine Durand, d'avoir été en ligne avec nous. Tout ça est à découvrir dans le numéro de Marie-Claire du mois de mai avec Julia Roberts en couverture. Vous avez fait les tests, vous, Serge Guérin et Mylène Desclos, ou pas du tout?
Moi, je l'ai fait.
Ah oui, vous l'avez fait.
Mais ça n'a rien appris.
Vous êtes vrai qu'un cadeau, donc.
Oui, de particulier. J'ai juste été troublée par le fait que l'entreprise à qui j'avais envoyé ma salive a été rachetée 2 ans plus tard par Google. Donc je me dis ben voilà, que mon ADN... Ben voilà.
On est bien sur une petite case.
Une des raisons pour lesquelles je ne le ferai pas. Non, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est travaillé par son identité. L'aspect très positif de ces tests, c'est que les gens découvrent que, bah ouais, ils sont diverses.
Oui.
Et il y a eu des gens, il y a une actrice assez connue qui pensait qu'elle était absolument noire et elle a découvert qu'elle n'était pas que noire. Mm. Et c'est très bien parce qu'on est tous diverses. Après, est-ce qu'on a besoin de le savoir? Moi, je m'en contrefous.
En tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à l'émission. Mylène Desclos, vous publiez Les jeunes femmes de 50 ans, L'âge canon chez Jean-Claude Lattès. Et puis, il y a le blog aussi sur lequel on peut vous retrouver.
Apiquinca.
Voilà, .com. Et merci à vous, Serge Guérin. Les quinquados chez Calman Lévy. Demain, 7 milliards de voisins, on donne la parole à des entrepreneurs en Afrique. Ils ont vécu en Europe, ils sont rentrés au pays pour monter leur boîte. Freins, difficultés, réussites, appelez-nous pour les questionner ou pour nous parler de votre parcours de repâte, puisque c'est comme ça qu'on dit après les quinquados aujourd'hui.